c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business. Aujourd'hui, un RLP Business spécial radio. Spécial radio avec Happy Radio. Happy Radio et Rodolphe Carmazine qui est venu nous voir ici à Coulommiers-Chamiers. Rodolphe, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et bienvenue sur RLP. Happy Radio s'invite sur RLP. C'est plutôt RLP qui invite Happy Radio. La radio, c'est aussi un business, c'est aussi une activité, c'est aussi de l'entreprise. On en parle tout de suite dans la chronique de la semaine.
Les actualités.
Les Français sont de fervents animateurs amateurs de radio avec 157 minutes d'écoute par jour. Ça représente 2h30, plus de 2h30 de radio par jour et par Français. Donc ça fait quand même, c'est une importance quand même, c'est important pour le citoyen français. Voilà. Selon le livre blanc de la radio réalisé par l'ARCOM, le marché de la radio représente près de 772 millions d'euros en 2023 et est en décroissance tendancielle avec des recettes nettes en baisse de 2% en moyenne par an entre 2012 et 2022. Les revenus des radios françaises sont majoritairement générés par les recettes publicitaires, lesquelles ont atteint 722 millions d'euros en 2023. Alors, Happy Radio est une radio privée. Monsieur Carmazine, vous, vos revenus, ce sont les subventions, ce sont les publicités? Comment ça fonctionne, vous?
Alors non, ce sont uniquement les publicités. Effectivement, comme vous le disiez, on est une radio privée. Dans notre jargon, c'est la catégorie B, c'est-à-dire radio locale, commerciale. Et nos revenus, ce sont uniquement les revenus des publicités que nous commercialisons auprès d'annonceurs locaux ou nationaux et que nous diffusons à l'antenne.
Est-il vrai que pour vous aussi, ces recettes sont en baisse annuellement ou alors non, vous avez trouvé une solution pour réagir face à la concurrence d'Internet et de nouveaux médias?
Alors non, nous, c'est plutôt en hausse. Alors c'est plutôt en hausse pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que effectivement, Happy Radio, bon, c'est une radio qu'on a repris il y a 3 ans et demi, qui s'appelait il y a encore quelques mois Bergerac 95. On a changé de nom puisque Bergerac 95 émettait uniquement à Bergerac et sur la fréquence 95, mais nous avons obtenu de l'ARCOM de nouvelles fréquences à Périgueux et à Sarlat. Donc, bien évidemment, on ne peut pas s'appeler Bergerac 95 quand on a des fréquences différentes et qu'on est présent sur des villes différentes. Donc ouais. On a changé de nom, on s'est appelé Happy Radio. Et quand on a repris la radio, elle était, il y a 3 ans et demi, effectivement, en mauvaise posture financière, suite à différents aléas, on va dire. Et nous, on a cette caractéristique, c'est qu'en réalité, on a une autre société qui s'appelle Happy Media, qui existe depuis une dizaine d'années, et dont la spécificité est la commercialisation de solutions publicitaires et principalement de solutions publicitaires radio.
Oui, c'est votre modèle économique, effectivement. Et on voit qu'en France, les radios françaises sont partagées en plusieurs groupes. Il y a Radio France qui truste 29,8% des radios françaises, le groupe M6 18%, Energy Group 15%, Les Indes Radio 11%, Lagardère News 7%, RMC 6%. Vous faites donc partie de 9,2% des radios françaises qui n'appartiennent pas à un grand groupe.
Alors, effectivement, on est complètement indépendant. Mais dans ce que vous avez cité, il y a les Indes Radio.
Oui.
Et les Indes Radio, c'est pas un groupe à proprement parler, c'est un groupement d'intérêts économiques, un GIE. Oui. Et donc, nous, on est adhérents au GIE,
d'accord,
les Indes Radio.
Vous faites partie des 11,2% qui sont voilà. dans les 129 radios thématiques indépendantes.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est pour ça que tout à l'heure, je disais publicité locale ou nationale, puisque nous-mêmes, donc, nous commercialisons la publicité locale auprès des annonceurs de Dordogne, mais nous avons également des diffusions de publicité nationale via le GIE Les Indes Radio, qui nous apporte quelques recettes nationales. Ce n'est pas le plus gros de notre chiffre d'affaires, mais voilà, ça participe quand même à notre chiffre d'affaires.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, c'est l'invité de la semaine, c'est Rodolphe Carmazine pour Happy Radio.
L'invité de la semaine.
Rodolphe Karmazine à Pierre Radio. Comment devient-on Rodolphe Karmazine aujourd'hui et comment devient-on responsable de Happy Radio ?
Ça remonte à très loin.
Oui.
Puisque moi j'ai connu, quand j'étais au lycée, j'ai connu l'élection de François Mitterrand. Donc en 81, et une des promesses de campagne de François Mitterrand, c'était la libéralisation des ondes, puisque avant...
Nous ici, on connaît bien.
Oui, donc avant ce moment-là, avant cette année-là, les seules radios qui avaient le droit d'émettre sur le territoire français, c'était les radios de Radio France, et puis il y avait les radios périphériques, donc RTL, Europe 1, RMC et Sud Radio, qui s'appelaient comme ça parce qu'elles émettaient depuis la périphérie de la France.
Hein. D'accord.
Donc RTL depuis le Luxembourg, Europe 1 depuis la Sarre en Allemagne, RMC depuis Monaco et puis Sud Radio depuis Andorre. Et donc, élection de Mitterrand, autorisation des radios libres à l'époque. Hein, et moi, voilà, je suis monté dans le wagon à ce moment-là. J'ai fait de la radio libre quand j'étais au lycée. Et puis en 84, quand la pub a été autorisée, puisqu'il y a eu une période où il n'y avait pas de financement publicitaire, les radios organisaient des fêtes, demandaient des dons, enfin voilà, se débrouillaient comme elles pouvaient. Et en 84, la pub a été autorisée et j'ai commencé à commercialiser de la pub pour une petite radio dans le Loir-et-Cher qui s'appelait Radio Rêve, qui était la diminution de Radio Régionale Vendômoise. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la radio et je n'en suis pas ressorti, j'y suis toujours aujourd'hui. J'ai navigué dans plusieurs sociétés, plusieurs groupes, pas tant que ça d'ailleurs, trois je crois. Et il y a une dizaine d'années, donc, j'ai eu l'opportunité de créer une société qui s'appelle Happy Media, qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, 70% de son activité, c'est la commercialisation de publicité radio. Donc on a des contrats avec différentes radios, notamment un gros partenariat avec la plus grosse radio régionale de France, qui est la radio Alouette. Et donc voilà, on navigue dans ce milieu-là depuis toujours et on a eu l'opportunité de faire connaissance avec cette radio à Bergerac, donc Bergerac 95, d'arriver au moment où justement elle était en proie malheureusement à des difficultés financières. Et le président voulait passer la main, on s'entendait bien, il m'a demandé de l'aider. Et puis j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit on peut tout simplement la reprendre, on a étudié le dossier et puis voilà. Voilà comment on arrive sur une radio en Dordogne.
D'accord. Donc vous n'êtes pas forcément passé par une formation de journaliste, d'animateur radio. Vous êtes rentré en tant qu'amateur parce que vous aimiez cela. Vous avez ensuite évolué dans les métiers qui vont autour de la radio, la vente d'espaces publicitaires et de communication. Vous avez fait après un choix de carrière qui était donc dans la communication radio, la publicité, je suppose un studio qui crée des spots et ce genre de choses. Et ça vous a permis de rester et donc de financer l'activité principale de votre radio.
Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, effectivement, les toutes premières années, c'était des années au micro, comme vous le faites à l'heure actuelle. Mm-hmm. Donc avec l'animation de certaines tranches de programmes pour une radio qui était forcément une radio associative au début. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé. J'ai basculé, comme je disais, du côté publicitaire. Et puis, même si le fil conducteur, c'est effectivement la partie commercialisation de publicité, j'ai toujours été en lien avec les autres services de la radio, l'antenne bien évidemment, la technique, et puis bon, les services d'intendance ou les services de comptabilité et finance, parce que bon, ça, tout ça c'est un tout pour une entreprise. Et c'est vrai qu'on a... On a à peu près toutes les compétences qui nous permettent de gérer l'ensemble des parties qui composent la radio. Et je crois que c'est un petit plus par rapport à certains de nos confrères, c'est que, alors toute modestie mise à part, hein, on a une certaine expérience dans la commercialisation de publicité radio, on suit le marché d'assez près. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez des recettes nationales qui sont en baisse. C'est un fait. Mm-hmm. Et l'audience, d'ailleurs, de la radio, généralement, est aussi en baisse. Mais malgré tout, nous, on se débrouille relativement bien sur la partie commercialisation de l'espace publicitaire local, en tout cas. Mm-hmm. Concernant, je dirais, l'avenir de la radio et l'audience de la radio, je pense que des radios qui sont très ancrées dans leur territoire et qui proposent des choses, des programmes qui sont fédérateurs ou intéressants pour le public, ont encore de très très beaux jours devant elles. Peut-être plus que des radios nationales qui sont uniquement musicales et qui sont confrontées directement à une concurrence des plateformes, des web radios, etc. Et qui finalement n'ont pas une valeur ajoutée peut-être aussi importante qu'elles l'avaient il y a 5, 10, 20, 30 ans en arrière. Quoi.
Mais ça, c'est une caractéristique du business. On ne peut pas être trop généraliste. Il faut bien se spécialiser sur quelque chose, avoir un angle d'approche qui nous différencie. Et donc, effectivement, on trouve sa part de marché. Mais vous, par exemple, je vous écoute, vous êtes commencé par bénévole, mais pour devenir responsable de plusieurs stations de radio, d'une société de création multimédia, il a fallu apprendre la comptabilité, il a fallu apprendre la technique, il a fallu apprendre le management, il a fallu apprendre la vente, il a fallu apprendre le marketing. Ça s'apprend comment tout ça ?
Alors ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en étant confronté à différentes équipes, ça s'apprend également en faisant des formations complémentaires.
D'accord.
Voilà, je crois que quel que soit le domaine dans lequel on évolue, qu'il soit d'ailleurs dans le business ou même dans le loisir, le sport, la culture, etc., si on est un petit peu passionné et qu'on a envie d'apprendre,
oui, bien sûr.
Il y a des tas de... c'est vrai que quand je compare les possibilités qu'on a aujourd'hui à celles qu'on avait il y a 40 ans, aujourd'hui avec Internet, avec tous les tutos, tous les cours, tous les MOOC qu'on peut trouver partout sur le net, on peut se confronter à des savoirs qui sont pas les nôtres au début et puis petit à petit les acquérir, même si on n'est pas forcément spécialiste en tout, mais ça nous permet avec ensuite des partenaires extérieurs d'essayer de faire les bons choix. C'est-à-dire que vous parliez de comptabilité, de finance. Bon, bah, nous, on a bien évidemment un banquier, on a bien évidemment un expert comptable.
Oui, est-ce que vous êtes issu d'un milieu, est-ce que vos parents, votre famille, avaient des entrepreneurs, des gens qui tenaient des magasins ou des commerces ?
Pas du tout.
Est-ce que vous avez dû apprendre cela par vous-même ?
Parce pas
que
du tout.
Gérer l'URSSAF, les appels à cotisation, la TVA. C'est quand même particulier, il y a une lourdeur administrative en France, il y a une manière de faire. L'état d'esprit de l'entrepreneur, je veux dire, tenir un micro et animer une émission, ce n'est pas la même chose que gérer des employés avec des fiches de paie, une comptabilité, ouais. Payer des impôts, des taxes et autres. Ça s'apprend, ça.
Bien sûr, mais ce qui compte pour un chef d'entreprise, c'est aussi d'avoir une vision globale, c'est de bien connaître son métier premier. Et puis pour toutes les composantes qui vont venir se greffer sur l'ensemble de l'activité, faire appel soit en interne, soit en externe à des spécialistes.
Bien sûr. Hein, on délègue, il faut apprendre à déléguer, bien
voilà,
sûr.
Voilà,
bien
voilà.
Oui, il faut en rester d'orchestre quand même. Hein.
Voilà, voilà. Et même si on a des compétences en interne qui peuvent être parfois importantes ou parfois juste basiques, mais comme je disais, voilà, si je prends notre exemple, nous, on a bien évidemment expert comptable, banquier, avocat, pour toute la partie technique, un partenaire technique qui vient et qui intervient pour les installations, pour les entretiens, etc. Donc on n'a pas forcément en interne, et moi, je n'ai pas forcément toutes les connaissances qu'il faut. Mais comme vous le disiez, ce qui compte, c'est de pouvoir mettre en musique l'ensemble des intervenants et d'être le chef d'orchestre.
Bien sûr, mais le modèle commercial d'avoir une société de création de contenu publicitaire et puis après de prendre des réseaux locaux pour faire travailler... Je veux dire, il y a une intelligence marketing quand même derrière. On n'est pas bénévole seulement derrière un micro, on devient entrepreneur. L'entrepreneuriat, si vous ne l'aviez pas dans la famille, vous l'aviez quelque part en vous.
J'ai le souvenir effectivement dans mes années de collège. Vous savez que quand on arrivait dans certaines classes au collège, au lycée, on remplissait une fiche et on nous demandait voilà, qu'est-ce que font vos parents, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et moi, très tôt, j'ai noté sur mes fiches, j'avais noté inventeur et chef d'entreprise. Pourquoi je ne sais pas, parce qu'effectivement dans la famille personne n'était ni commerçant ni entrepreneur, mais voilà, j'ai eu très tôt cette envie. Pendant des années, j'ai été dans les différentes sociétés dans lesquelles je suis passé. J'étais responsable de mon service, j'étais directeur commercial, directeur général de différents services. Et puis ben voilà, finalement l'occasion s'est présentée assez tardivement, puisque c'est à 50 ans que j'ai créé véritablement ma société. Mais en réalité, j'avais toujours eu cette envie de piloter quelque chose de par moi-même.
D'accord, ok. Bon, Happy Radio, aujourd'hui, c'est combien d'employés et combien de stations ?
Alors, Happy Radio, donc c'est une seule radio, avec donc trois émetteurs aujourd'hui, donc Bergerac, Périgueux, Sarlat. Sur la partie radio, il y a uniquement deux salariés.
D'accord.
Donc c'est peu. Mais en réalité, on a trois autres personnes qui sont des prestataires externes qui interviennent donc pour l'antenne.
Pour Happy Media, peut-être ?
Non, pour Happy Radio.
D'accord.
Vraiment pour Happy Radio. Donc okay. Pour la partie animation de certaines tranches, pour la fabrication de certaines rubriques, pour des informations locales, donc vraiment sur la Dordogne. Donc en réalité, voilà, on a cinq personnes, deux salariés et trois personnes externes qui interviennent sur l'antenne. Et puis, effectivement, dans le groupe Happy Media, on a 5 ou 6 personnes qui interviennent, alors soit à temps complet, soit à temps partiel, pour la radio. Alors, deux personnes à temps complet, parce que ce sont les deux conseillères commerciales qui sont sur la Dordogne, une à Bergerac, Élise Princeau, une à Périgueux, Lisa Semenot. Et puis, donc là, vraiment, qui travaille pour Happy Radio via Happy Media toute la semaine. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont au siège à Saint-Avertin, à côté de Tours, et qui interviennent pour la communication, pour la partie Internet, les réseaux sociaux, etc. Et puis, une autre personne qui intervient pour la partie comptabilité.
D'accord, donc aujourd'hui, vous gérez une grosse dizaine de personnes.
Alors, sur la radio, voilà, il y a une dizaine de personnes qui interviennent, et puis en tout, sur le groupe, on est un peu plus de 20 personnes.
Ouais. Ah, donc vous managez, vous gérez une grosse vingtaine de personnes.
Voilà, c'est ça.
Donc effectivement, là, il faut commencer à déléguer, oui. Parce qu'il y a un cap à partir de 10, 11 employés. Il y a déjà un cap pour passer au premier, il y a un second cap à 4, 5. Là, 20 personnes, vous avez combien d'administratifs ?
Une personne.
D'accord, donc c'est pas mal, là, oui, une sur 20, vous êtes à 5% administratif, c'est en dessous de la moyenne. C'est ce que généralement, dans ce genre de... dans l'entrepreneuriat, on monte facilement à 20 ou 25% d'administratif.
D'accord.
Ok. Bon, mais écoutez, ça marche bien, c'est une bonne réussite. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est, comment dirais-je, la facilité avec laquelle vous avez trouvé votre style et votre image. C'est de la radio, et en même temps, il y a une image qui est très visuelle. Vous avez su allier la radio, le visuel, les médias sociaux. Vous avez su, en fait, on appelle bien ça l'audiovisuel, vous avez bien su harmoniser un peu toutes ces tendances-là. La radio, ça va évoluer vers quoi, à votre avis ?
Alors ça, c'est une grande question. C'est un petit peu ce que je disais déjà tout à l'heure. Je pense que la radio a encore de beaux jours devant elle. si elle propose véritablement une valeur ajoutée. Et donc la valeur ajoutée, c'est ce qu'on peut y trouver et ce qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Mm-hmm. Je prenais le cas des... Je pense que les radios musicales nationales, on le voit d'ailleurs dans les chiffres d'audience, hein, je vais prendre le cas de Energy. Energy était monté à 13 points ou 14 points d'audience. Aujourd'hui, ils sont à peine à 9, je crois. Donc, ils ont perdu en 10 ans énormément d'audience. Bon, ils se sont renouvelés par d'autres activités. Mais voilà, une radio musicale nationale, à mon avis... Je peux me tromper, mais à mon avis, va avoir encore de grosses difficultés dans les prochaines années, parce que aujourd'hui, on a Deezer, on a Spotify, on a des milliers de web radios, avec les accès Internet, voilà, les box, les assistants personnels, etc., les téléphones, enfin, on accède au monde entier et on peut choisir sa musique comme on veut. Donc il n'y a plus la même valeur ajoutée que dans les années 80, 90, 2000 où effectivement...
il y a eu l'exclusivité, oui. Après, je suis en voiture, voilà. J'ai un autoradio, je n'ai pas envie de toucher l'autoradio en permanence pour faire mes choix, donc je délègue ma sélection à une station de radio, à une radio et...
Oui, mais alors voyez, par exemple, donc l'avenir de la radio, certains disent, c'est peut-être vrai, que ça va être le DAB+. Donc aujourd'hui, on diffuse tous en FM. Depuis une petite dizaine d'années, voilà, les émetteurs DAB+, donc les émetteurs numériques, s'allument au fur et à mesure des appels à candidature et des attributions de fréquences de l'ARCOM. Mais les auditeurs ne savent pas ce que c'est. Les auditeurs ne sont pas forcément équipés. À domicile, pas du tout. Dans les voitures, depuis 3 ou 4 ans maintenant, les constructeurs ont l'obligation de mettre des puces DAB+ dans les autoradios. Donc, petit à petit, le DAB+ arrive comme ça à faire un peu d'audience via l'écoute en voiture. Donc, ça rejoint un peu ce que vous disiez. Mais les constructeurs automobiles n'ont pas l'obligation de mettre un autoradio dans les voitures. Mmh. Et de plus en plus, les voitures ont un écran avec des applications qui s'affichent. Et la crainte des opérateurs radio, c'est que demain, il y ait en tête de gondole, si je puis dire, sur les écrans des voitures, Deezer, Spotify, Apple Music, enfin voilà, tous ces gens-là, Google, etc. Et qui n'est pas forcément les radios qui sont les radios de nos territoires.
La dépendance aux distributeurs, on y revient.
Exactement, voilà. Donc il y a cette voilà, il y a quand même cette question, et aujourd'hui le secteur de la radio au niveau national et international fait des actions de manière à ce que la radio reste toujours dans les voitures, parce que c'est effectivement un endroit où on délègue facilement le choix, comme vous le disiez, mais voilà, c'est pas garanti à 100%. Donc il faut vraiment qu'on apporte une valeur ajoutée, et nous on a on travaille beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Happy Media. On travaille beaucoup avec Alouette, qui est une radio régionale qui fait vraiment un travail formidable sur les territoires là où elle est ancrée. Et nous, avec Happy Radio, donc en tant qu'éditeur, c'est ça qui nous a motivés à reprendre cette radio et à la développer. Mais en restant vraiment quelque chose de local, implanté localement. On s'est rencontrés il y a quelques semaines à la foire de Périgueux.
Foire Expo de Périgueux, tout à fait.
Mais c'est pas un hasard, parce que on veut être présent à Périgueux, à Bergerac, sur la foire, sur la semaine prochaine, on va être présent sur la nuit.
Vous implanter localement.
Voilà, sur la nuit de l'orientation avec la CCI, on va être là. Alors on peut pas être partout, bien évidemment, mais on a envie d'être proche du territoire, proche de la vie des gens, et essayer de leur parler de choses qui les intéressent.
Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez une convergence entre la radio et la télé ? On voit des radios aujourd'hui qui mettent des webcams, des caméras dans les studios et qui retransmettent aussi de l'image en même temps que de la radio. Ou est-ce que vous voyez la radio, le groupe API va rester uniquement sur le son, va passer un petit peu à l'image aussi, par exemple ?
Alors, pour ce qui est de la radio filmée, hein, puisqu'il y a effectivement des caméras qui sont mises dans certains studios de radio, j'ai un avis assez négatif à ce sujet-là. Je pense que la radio, c'est la magie du son. On écoute la radio, la radio est un média d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut faire autre chose en même temps, on peut conduire en même temps, on peut, pourquoi pas, bricoler, faire la cuisine, faire du sport en même
c'est
temps qu'on écoute
podcast,
la radio.
En fait. Quand on retrouve un truc de Berkoff sur Internet, on est content de le voir parler, parce que c'est du podcast, c'est plus tard, c'est ensuite.
Mais effectivement, si on filme Happy Radio aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Ça peut avoir un intérêt si effectivement on a un invité. Si par exemple là notre interview en ce moment était filmée, parce que c'est quelque chose de précis, de pourquoi pas, parce qu'on voit la tête de la personne qui a été invitée. Donc ça peut être intéressant. Et puis on voit la manière dont les gestes sont faits, bon, oui. L'attitude de la personne, c'est son faciès, ses mimiques. Bon, pourquoi pas, sur un cas comme ça, sur une personnalité.
Quelqu'un,
ou une personne.
Sur son ordinateur, sur son fauteuil, qui va volontairement accéder à un contenu. Et puis il faut que ça bouge devant ses yeux aussi, parce que voilà. Sur son écran, il ne se passe rien. Dans ce cas-là, peut-être.
Mais filmer une émission continue, qui est principalement oui. musicale, où on va passer d'autres. Trois jingles et juste annoncer le titre,
ah oui,
et puis dire voilà le chanteur qu'on vient d'entendre, il va être en concert au Palio.
Oui,
c'est vrai. Bon, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Voilà.
Je comprends.
Donc voilà. En revanche, pour rebondir sur votre question, moi je crois que ce qu'il faut, c'est essayer d'être effectivement un média global. Et donc on fait de la radio, mais on communique aussi sur notre site internet, c'est-à-dire que notre site internet c'est quelque chose qui est où on retrouve du contenu, des informations, les podcasts, des émissions qui ont été enregistrées, etc. Et puis les réseaux sociaux, voilà. Donc tout ça constitue
stratégie de communication
un média global, voilà.
Oui. En fait, aujourd'hui, le groupe API, c'est vraiment de la communication numérique, c'est de la publicité, c'est de la radio, c'est un visuel qui est assez fort. Ce sont des médias sociaux, ce sont éventuellement des affiches. D'ailleurs, qui vous fait vos logos et vos visuels? Parce que vous avez un artiste chez vous, visiblement. Là.
Tout a été fait en interne. A été fait en interne. Mais on a effectivement des compétences graphiques en interne, et c'est comme ça que c'est développé. Oui.
D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Happy Radio? Quels sont vos projets? Donc là, nous sommes fin 2024. Happy Radio, dans quelques temps, c'est quoi?
Il va y avoir normalement l'année prochaine un appel à candidature pour le DAB+ en Dordogne, mm-hmm. Voilà, parce qu'on est un peu les derniers avec d'autres petits départements français. Donc évidemment, on sera candidat sur le DAB+, on va essayer de diffuser, on va diffuser nos programmes en numérique d'ici quelques temps. Et puis, pourquoi pas, si l'occasion se présente, aller chercher d'autres fréquences ailleurs, mais en restant toujours sur des périmètres locaux, des ancrages locaux, c'est ça qui nous intéresse.
En gardant votre identité, en gardant ce que fait le groupe API, mais par contre, il faut quand même s'adapter aux évolutions, il faut quand même continuer de croître. D'accord. Et Rodolphe Carmazin, API Radio, c'est pour y rester ou c'est pour revendre après?
A priori, c'est pour y rester. Revendre, voilà, moi, à un moment donné, je vais peut-être vouloir passer la main. C'est possible, mais c'est pas d'actualité. Pour l'instant, le but du jeu pour nous, c'est de continuer à nous développer et de continuer à faire ce métier qui nous plaît.
Oui, et qui est merveilleux, la radio. Ça reste quand même quelque chose
de magique.
De magique, absolument magique. Rodolphe Carmazin, API Radio, merci d'être venu sur RLP.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
RLP Business.
RLP. Radio Libre en Périgord.